depuis le début que nous on veut savoir, on veut vraiment avoir des explications. On aimerait bien que Monsieur Desjean s'exprime, qu'il nous explique vraiment ce qui s'est passé et pourquoi ma sœur est morte.
Bonsoir. Du 29 au juin au 9 juillet prochain se déroulera le procès en appel de Laurent Desjean. Ce nom ne vous dit peut-être rien, c'est pourtant l'homme qui a été reconnu coupable du meurtre de la joggeuse Patricia Bouchon, une mère de famille âgée de 49 ans à Boulogne en Haute-Garonne en 2011. Crime qui avait suscité une vague d'émotions dans tout le pays et même débordé sur le terrain politique. Il s'en était suivi une enquête fleuve. L'arrestation, puis la condamnation de Laurent Desjean, considéré comme un marginal, en proie à des délires paranoïaques. Procès jusqu'au bout incertain, puisque aucune preuve formelle n'avait été réunie contre lui. Son ADN n'était pas non plus présent sur le lieu du crime. L'homme, aujourd'hui âgé de 42 ans, n'a jamais fait aucun aveu. Le procès en appel peut-il réserver son lot de surprises? L'enquête a-t-elle laissé derrière elle des zones d'ombre? Mais qui donc, hormis Laurent Desjean, aurait pu tuer la joggeuse de Boulogne, épouse tranquille et mère attentionnée? C'est cette affaire, l'affaire Patricia Bouchon, que nous allons détailler ce soir avec cette question centrale. La vérité, toute la vérité, a-t-elle été dite?
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
Ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire de la joggeuse de Boulogne, Patricia Bouchon, à l'aube de cette soirée d'hiver 2011, et presque comme chaque matin, cette mère de famille parcourir dans les rues de cette commune à 30 km de Toulouse. Il est 4h du matin ce lundi 14 février 2011 quand Patricia Bouchon se lève, enfile un pantalon de jogging noir, un haut de couleur claire et des baskets blanches. Elle n'oublie pas non plus, en hiver, de mettre des gants en latex badigeonnés de graisse pour éviter les engelures et glisse par-dessus des gants de laine. L'heure est pour le moins matinale pour décider d'aller courir, mais c'est une vieille manie chez Patricia, 49 ans, secrétaire juridique dans un cabinet d'avocats de Toulouse. Son mari, Christian Bouchon, ne s'en offusque plus. Les lève-tôt, pompistes, boulangers ont l'habitude de voir cette femme passer en courant alors que le jour ne s'est même pas levé. Impossible de la rater, Patricia Bouchon, qui souffre de TOC, trouble obsessionnel compulsif, suit toujours le même trajet, une boucle de 4,5 km parcourue en 35 minutes. La joggeuse quitte encore systématiquement son domicile, une villa récente posée dans un quartier tranquille, à 4h15 précise. Un rituel tellement bien réglé que lorsque son époux ne la voit pas rentrer, il s'inquiète et puis s'affole. Il finit par appeler la gendarmerie la plus proche, celle de Fronton. Pas de signe de vie de Patricia qui n'a pas pris son téléphone portable. Les gendarmes enregistrent les dépositions de Christian Bouchon et de la fille du couple, Carline, 26 ans, qui n'habite plus chez ses parents. La joggeuse est décrite comme une femme bien dans sa peau, sportive, très croyante, absolument pas dépressive. La section de recherche de la gendarmerie de Toulouse est immédiatement saisie. Mardi 15 février, lendemain de la disparition, un couple habitant une impasse à Boulogne signale des traces de pneus suspectes sur sa pelouse. Les gendarmes font des moulages. Ils trouvent également une mèche de cheveux et un gant en latex appartenant à Patricia Bouchon, quelques taches de sang ainsi que le chouchou noir de la joggeuse. Dans cette impasse non éclairée la nuit, un autre couple de résidents, les époux Schneidler, des Allemands, affirme avoir entendu un cri humain lundi au petit matin vers 4h30. Jürgen et Dani ont alors entrebâillé le volet. Ils ont perçu une voix d'homme dire « excuse-moi, excuse-moi » entre deux sanglots. Puis ils ont entendu un bruit de moteur, une voiture démarrant en trombe. Les Schneidler ont pensé à un couple qui venait de se disputer. L'hypothèse criminelle est privilégiée. Le 28 février 2011, le parquet de Toulouse ouvre une information judiciaire pour meurtre. Le 3 mars 2011, la gendarmerie met en place une cellule d'enquête baptisée Disparition 31. C'est un corps que l'on recherche désormais. Ce 29 mars 2011, un mois et demi après la disparition, un employé municipal de Villematier, village situé à 15 minutes de Boulogne, est à la recherche d'un chien de chasse égaré. On a signalé l'animal près d'un vieux pont. Il s'y rend, aperçoit une forme à demi immergée qu'il croit être un animal. Il va chercher des bottes. Il utilise un bâton pour soulever cette masse. C'est un corps, celui d'une femme, la joggeuse Patricia Bouchon. Une alliance de forme carrée sur laquelle est gravé deux cœurs entrelacés est reconnue par son mari. L'autopsie note une putréfaction avancée mais pas extrême. Les causes de la mort ne peuvent pas être formellement établies. Patricia Bouchon a reçu des coups. Elle a eu deux vertèbres cervicales brisées, l'équivalent du coup de lapin, dira le légiste, le docteur Telmont. Un gant de latex a été enfoncé dans la bouche de la victime. Une fracture de l'os hyoïde suggère une strangulation. Au moins deux ADN masculins inconnus dans les fichiers sont relevés sur les objets appartenant à Patricia Bouchon. Cette dernière ne semble pas avoir subi de violences sexuelles. Impossible alors de savoir pourquoi la joggeuse a été tuée. Le vol est exclu, tout comme un scénario de vengeance. L'agression sexuelle ne tient pas non plus. Avant même que le corps ne soit retrouvé, les gendarmes ont multiplié les auditions et passé au crible leurs fichiers. Un témoin, un dénommé Nicolas Gélis, 22 ans, chauffeur-livreur chez Chronopost à Montauban, affirme avoir vu Patricia Bouchon le matin de sa disparition à Boulogne à 4h33. Il se souvient de l'heure exacte car au volant de son fourgon, il a pilé pour ne pas percuter une voiture stationnée au beau milieu de la route, tout feu éteint. Il y avait un homme à bord, il le décrit comme un individu entre 30 et 50 ans, environ 1m80, mal rasé et portant un bonnet. Il a pu voir son visage car le plafonnier était allumé. La voiture en question était une Renault Clio gris anthracite avec les sièges arrière rabattus. Renault qui a aussitôt redémarré. Nicolas Gélis l'a perdu de vue. La piste de la Clio est prise très au sérieux. La cellule disparition 31 a du pain sur la planche. 59 436 véhicules correspondent. Le chauffeur-livreur donne toutes les indications pour que la gendarmerie dresse un portrait robot. Le visage d'un homme portant un bonnet. Curieusement, sa diffusion n'est réservée qu'à un usage interne. Pour les seules brigades de gendarmerie, aucune diffusion programmée, ce qui va vite irriter Christian et Carline Bouchon, mari et fille de la victime. L'enquête ne permet pas d'interpellation digne de ce nom. Après être resté 2 ans et demi dans les tiroirs de la gendarmerie, le portrait robot est enfin affiché partout. Diffusion qui va faire rebondir les investigations. Ce 9 février 2015, Laurent Dejean, 34 ans, est interpellé chez lui en logement social rue du Cardillou, à Boulogne. Ce n'est pas la première fois que les gendarmes lui rendent visite. Cet homme, qui est placé sous curatelle, plaquiste sur les chantiers, mais souvent en arrêt de travail, a déjà été interrogé dans le cadre de l'enquête Patricia Bouchon. Son comportement étrange avait été signalé quelques mois après le crime. En septembre 2011, il déambulait alors dans Boulogne avec une Bible à la main. Le 12 janvier 2012, il était à nouveau à la gendarmerie pour se soumettre à un prélèvement ADN. Celui-ci s'était avéré négatif. À l'époque, Dejean avait indiqué ne pas posséder de Renault Clio et affirmé qu'il travaillait le jour du meurtre. Il avait été relâché. Au mois d'octobre 2013, après que la juge Sylvie Bergougnan accepte sans enthousiasme de publier le portrait robot, le nom de Dejean refait surface. Un appel anonyme indique que l'homme du portrait robot est bien Laurent Dejean et que celui-ci serait propriétaire d'une vieille Clio dont il se serait débarrassé 2 ou 3 jours après le crime. Les gendarmes suivent la piste de Jean, même si les expertises ADN semblent l'exonérer de toute participation au crime. Et quand bien même il n'a aucun antécédent judiciaire, il devient le suspect numéro 1. Comme l'indique la dénonciation anonyme, l'intéressé a changé de comportement après le meurtre. Dans les 9 jours suivant le drame, il a été mis en arrêt maladie. Il aurait également arrêté de prendre de la cocaïne et de fumer des joints. De nombreux témoins, 31 exactement, assurent qu'il était bien propriétaire d'une Renault Clio de première génération à l'époque de la disparition de Patricia Bouchon. Ses connaissances décrivent un homme gentil et imprévisible qui peut soudain devenir agressif et nerveux. De Jean est conduit sur le lieu de l'enlèvement, puis mise en examen pour homicide volontaire et écroué. La sœur de la victime, Sandra, exprime son soulagement après l'arrestation du suspect. Elle évoque un grand pas pour sa famille. « On a foi en la justice », dit-elle. « On sait que le juge et les enquêteurs vont rattraper le temps perdu. Cette arrestation est le début d'une nouvelle étape. » Laurent Dejean est en détention, ses avocats ne vont cesser de dénoncer un dossier fragile et même vide. La bataille judiciaire va faire rage sans pouvoir éviter au suspect une comparution devant une cour d'assises. Le 14 mars 2019, Laurent Dejean, physique athlétique, cheveux courts, bruns et regard inquiet, se présente devant la cour d'assises de la Haute-Garonne à Toulouse. Procès à l'issue plus qu'incertaine, avant que le suspect numéro 1 ne soit renvoyé aux assises, l'avocat général avait requis un non-lieu en sa faveur. Le magistrat rejoignit alors les conclusions des avocats de Dejean, à l'époque maître Pierre de Buisson et Raphaël Daribert. La défense dénonçait l'absence de traces ADN, indiquait que le témoin qui l'aurait aperçu la nuit du crime ne l'avait pas reconnu lors des présentations à la gendarmerie, les fameux tapissages. Pour les avocats, Dejean serait accusé sur la seule foi de témoin le présentant comme un psychotique, un consommateur de cannabis et un menteur après avoir réfuté être le possesseur d'une vieille Renault Clio. 61 pistes, dont celle du mari de la victime, ont été étudiées par les gendarmes, mais seule la piste de Jean est retenue. Le procès de Laurent Dejean dure 15 jours. Les enquêteurs pointent les contradictions de l'accusé. Le témoin principal, le chauffeur livreur Nicolas Gélis, répète qu'il a bien vu un homme dans une Clio. Il se souvient de son visage. Il dit avoir une bonne mémoire visuelle, mais ne s'explique pas pourquoi il ne reconnaît pas Laurent Dejean. À son tour, Dejean s'exprime pendant près de 3 heures devant la cour d'assises. Son discours est le plus souvent confus, décousu. Il admet avoir eu une Clio blanche, mais ne l'a pas dit. Il avait peur d'avoir des ennuis, car le véhicule n'avait pas de carte grise. Sa sœur témoigne en sa faveur. « Pour moi, le vrai coupable est dans la nature. Il y a toujours quelqu'un qui court », dit-elle. Son ex-petite amie Natacha présente l'accusé comme quelqu'un de violent, jaloux, mais qui n'a jamais levé la main sur elle. L'avocat général va requérir l'acquittement en pointant l'absence de preuves et les erreurs de l'enquête. Laurent Dejean est malgré tout condamné à 20 ans de prison. Laurent Dejean est accablé à l'annonce du verdict. Ses avocats font savoir qu'ils vont faire appel de cette décision. L'affaire Patricia Bouchon sera donc réexaminée par la justice. Le deuxième procès de Laurent Dejean est audiencé du 29 juin au 9 juillet 2021 devant la cour d'assises d'appel du Tarn à Albi. La nouvelle défense de l'accusé, représentée par maître Karim Chebani, va de toute évidence souligner à nouveau l'absence de preuves matérielles, pas de traces ADN, pas d'empreintes, pas de témoins le reconnaissant formellement cette nuit-là. « Mon client clame toujours son innocence, nous plaiderons bien sûr l'acquittement », dit-il. Au premier procès, Dejean s'exprimant maladroitement, incapable de dire clairement quoi que ce soit sur la détention d'une Renault Clio, n'avait pas convaincu les jurés. La sœur de la victime, Sandra, n'avait pas manqué de pointer du doigt un accusé qui continue de s'enfoncer dans ses contradictions et qui aurait une mémoire sélective. La fille de Patricia Bouchon, Carline, indiquait pour sa part « On est face à quelqu'un qui est dans le déni depuis 8 ans ». Depuis sa condamnation, Laurent Dejean a fait plusieurs séjours dans des unités hospitalières. La famille de Patricia Bouchon regrette qu'il n'ait jamais fait d'aveu et affirme ne pas réclamer de peine particulière. Ses proches et leurs avocats, maître Léna Barraud et Stéphane Julliard, souhaitent la confirmation de la condamnation et que Dejean puisse être soigné pendant 30 ou 50 ans s'il le faut, afin qu'il ne récidive pas.